Première partie. L'ange. Chapitre 1. Novembre 2017. Un ciel volcanique, d'un noir de cendre, écrasait Paris depuis presque 10 jours, avec l'une de ces pluies continues où les gouttes chutent comme des poignards. De quoi finir de vous achever, au cas où il vous resterait un peu de chaleur au fond du cœur. Sans doute parce que cette saison marquait le passage de la vie à la mort, de la lumière à l'obscurité, et explosait le compteur des suicides, des gastroentérites et des genoux douloureux. Franck Charcot haïssait l'automne. Le col de sa parka imperméable remontait jusqu'aux oreilles, les chaussures enfoncées dans un humus gorgé d'eau, il progressait, seul, en forêt de Bondy, à une 15 kilomètres à l'est de Paris, en Seine-Saint-Denis. Il s'était écarté des sentiers de randonnée pour s'aventurer dans une végétation plus dense, un marécage de fougères brunes et de boue épaisse en direction des étangs. Sa femme, Lucie, et le lieutenant Pascal Robillard piétinaient depuis 2 heures. Franck entreapercevait au loin, parmi d'autres, leur silhouette détrempée entre les troncs nus des hêtres et des chênes. Un randonneur matinal avait donné l'alerte aux alentours de 8 heures. Son berger malinois avait filé d'un bond à travers les fourrés pour s'immobiliser soudain et aboyer sans discontinuer. Après sa découverte, l'homme avait composé le 17. L'appel téléphonique était d'abord remonté au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, puis, vu la nature sordide du crime et la zone géographique, à la brigade criminelle de Paris. Charcot étant en réunion avec la direction de la PJ, Pascal Robillard, leur procédurier, avait lancé la machine sur ordre du procureur de la République. L'identité judiciaire, IJ, venait d'arriver afin de sécuriser la zone et d'installer le matériel pour les premières analyses de police scientifique. La journée promettait d'être longue et humide. Charcot salua tout ce beau monde, y compris les flics d'Aulnay et le randonneur avec son chien. Visage gris et fermé sous la pluie. Lucie tremblotait dans son anorak noir et, malgré sa capuche, des mèches de cheveux blonds dégoulinantes collées à ses joues rosies par le froid. Franck lui adressa un bref signe de la main. « Pourquoi les flics ne prennent jamais de parapluie? Il n'y a pas de honte à tenir un parapluie quand il pleut. C'est quoi, une question de virilité ?»«
Plutôt de la compassion pour les victimes. Elles ont froid, alors nous aussi. »
Lucie désigna la fosse 5 mètres devant elle. Pas beau à voir. Les techniciens de scène de crime plantaient des piquets pour installer des barnums, ces tentes blanches avec un toit pointu, afin de protéger au mieux la zone et le corps. Avec la forte pluie, leur tâche, déjà compliquée dans des conditions idéales, allait relever du parcours du combattant. Charcot demanda au capitaine responsable de l'IJ l'autorisation de circuler derrière la rue balise disposée autour du trou et s'approcha à travers les fougères aigles et les clématites par le chemin balisé. Avant de plonger vers les abysses, il ferma les yeux. Son rituel. La découverte d'une scène de crime restait un moment intense dans la vie d'un flic, même après 29 ans de terrain. C'était la promesse malsaine d'une nouvelle traque. Un shoot brutal d'héroïne dont on savait à la longue qu'il vous détruisait. Charcot aimait autant qu'il détestait ces moments, et ce matin-là, il allait détester. Parce qu'il tombait des trompes d'eau, parce qu'on pataugeait en pleine forêt, et que ces crimes-là, perpétrés au milieu de nulle part, se révélaient les plus coriaces à résoudre. Le cadavre d'un homme nu gisait dans un mélange d'eau et de boue, au fond d'une fosse carrée d'1 mètre sur 2 et profonde d'environ 1,50 m. En ce sombre matin de novembre, on parvenait à observer que ce corps d'une blancheur de lilas, encore jeune, était marbré de lacérations violettes, d'entailles profondes, surtout sur les bras et le torse, rendues noires et luisantes par la pluie. Un trou foncé lui creusait le ventre, au niveau du foie, et l'organe, à moitié sorti, formait une langue diabolique. Le type était méconnaissable. Le visage semblait avoir fondu, empêchant Charcot d'estimer son âge. Les cavités oculaires vides révélaient une profondeur de gouffre. En dépit de son état, le corps à demi-flottant devait être frais. Tout au plus, une douzaine d'heures. Les premiers signes de putréfaction ne s'étaient pas encore manifestés, et malgré un foie offert à la nature, les larves d'ordinaire friandes étaient aux abonnés absents. Charcot scruta les parois détrempées de la fosse, renforcées à l'aide de 6 palettes de bois qui empêchaient au trou de s'effondrer sur lui-même. Un travail de mineur, net et précis. Il plissa les yeux et se décala d'un mètre sur la gauche. Remarqua une minuscule demi-lune fichée dans le bois. Un angle ? Ça y ressemblait en tout cas. Il revint vers les mains de la victime, trop noire de boue pour en discerner les détails. Le flic évita de piétiner en dehors des balises et rejoignit sa femme. Il remarqua la présence d'une large planche en contreplaqué un peu plus loin.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Le couvercle du tombeau. »
Charcot essuya l'eau de pluie qui ruisselait sur son visage. Il aspirait déjà à un bon café chaud. Il n'allait pas camper dans cette forêt, mais y croupir au moins 4 ou 5 heures. L'injection de caféine en intraveineuse se révélerait indispensable, et les thermos posés contre un arbre étaient là pour ça.
« Tiens, viens voir !»
Lucie l'emmena auprès de la planche. Elle désigna les paquets de feuilles mortes et de chèvrefeuilles arrachées. Ça sentait le bois humide, la pourriture, la terre retournée, comme si la forêt s'inhumait elle-même.
La végétation arrachée et les feuilles servaient à dissimuler la planche qui recouvrait l'excavation. Heureusement, ce chien a eu un bon flair. Le corps aurait encore pu pourrir des jours avant qu'on le découvre. Cette fosse ne date pas d'hier et n'a pas été faite à la va-vite. Il a fallu la creuser, l'étayer avec les palettes. Ça pèse lourd, ces trucs. C'est compliqué à transporter, ça ne se fait pas en 2 heures. On est dans un coin isolé, loin des sentiers. L'auteur du trou voulait s'assurer qu'on ne trouve pas sa cache.
Des giclées de gouttes glacées claquaient contre la toile de leurs vêtements. Cette forêt, où aimaient se promener des familles au beau jour, revêtait un air funeste, avec ses arbres dépouillés et le vide stellaire qui l'habitait. Charcot remonta à fond la fermeture de l'anorak de sa femme.
« T'es gelé ! Retourne au 36 !»
Il n'arrivait pas à dire le bastion, le nom qu'on donnait à leur nouveau bâtiment situé dans la rue du même nom.
« J'ai connu pire !»
Le commandant de police enfouit ses mains au fond de ses poches. De loin, sa massive carrure se découpait comme un chêne de plus.
« Il y a un truc qui m'a tout l'air d'un ongle, planté dans le bois des palettes. Tu l'as vu ?»«
Je me suis surtout concentré sur le corps. »«
Si c'est bien un ongle, ça veut dire que notre homme était vivant. L'assassin l'a contraint à se mettre à poil et l'a balancé là-dedans. La fosse n'est pas si haute, alors... Pourquoi il n'est pas remonté ?
Peut-être qu'il était blessé à mort, à l'agonie et incapable de se relever. T'as vu l'état de son ventre ?
Et il a essayé de s'agripper de son mieux, en vain, avant de mourir. Puis l'assassin lui a gentiment ouvert le bide et refait le portrait pour nous éviter de l'identifier trop facilement.
Trop tôt pour tirer des conclusions. En tout cas, on a affaire à un sacré taré qui n'y est pas allé de main morte. Charcot observa les alentours, puis fixa les collègues en lutte pour installer un des barnums au-dessus du trou. Pascal Robillard les aidait.
« Allons leur filer un coup de main. »
20 minutes plus tard, 3 tentes étaient installées en enfilade et offraient un couloir au sec d'environ 9 mètres de long. Les techniciens avaient multiplié les allers-retours vers leur fourgon pour récupérer du matériel. Les pieds pataugeaient dans la boue. Les semelles s'engluaient, accompagnées d'insupportables bruits de succion. À présent, des ballons lumineux sirocco éclairaient la scène du crime en contre-plongée et disposés de la sorte évitaient les zones d'ombre. L'un des hommes équipé de bottes et de gants y descendit à l'aide d'une petite échelle. Il confirma la présence de l'ongle arraché à la main gauche de la victime. Pascal Robillard veillait au bon déroulement des analyses. Enregistrait avec la plus grande précision la scène au moyen d'un dictaphone. Circonstances de la découverte, description des lieux, de la victime, conditions météo. Depuis le départ du lieutenant Jacques Levallois pour la SAT, la section antiterroriste, Robillard avait hérité du rôle de procédurier du groupe Charcot.
Restait donc une place à combler dans l'équipe, et pour ce faire, un nouveau brigadier-chef, attendu de tous avec impatience, arrivait le lendemain. Sous l'abri, Lucie réchauffait ses mains autour d'un gobelet de café brûlant. L'humidité lui donnait mal aux genoux. Une flaque grandissait à ses pieds. « Drôle de journée pour notre deuxième anniversaire de mariage. »«
C'est comme ça. Les assassins qui s'invitent au banquet ne préviennent pas. On se fera un resto une prochaine fois. »
Charcot ne s'attarda pas sur le sujet et enchaîna avec des coups de fil, y compris au substitut du procureur, pour demander une levée de corps et une autopsie dans le délai le plus bref. Lucie savait à quel point le souvenir de leur mariage, dont il disait que ça avait été l'un des plus beaux moments de sa vie, lui était aussi douloureux. Il voyageait à Venise lors des attentats du 13 novembre 2015. Charcot n'avait pas pu être au front avec ses camarades, ceux du 36, entrés dans le Bataclan 3 heures après le drame. Ceux-là même qui avaient pu dessiner, au détail près, le visage de l'horreur. On se pourrissait l'existence à être flic pour affronter ces moments-là, et quand on les manquait, un grand vide vous aspirait et vous donnait l'impression de vous être défilé. Les flashs du réflexe canon crépitaient sous la toile. Une pompe alimentée par un groupe électrogène tournait afin d'aspirer le liquide, eau, sang, boue, dans lequel baignait le corps. Il fallait préparer le relevé d'empreintes digitales en milieu humide, d'ADN. La recherche d'insectes in situ pour les histoires de datation. Un vrai travail de fourmi, mais aucun détail ne devait être négligé, puisque Charcot le savait, c'était toujours dans les détails que se cachait le diable. Plus loin, Robillard et deux techniciens se courbaient dans les fougères au bord d'une paroi de la fosse. À l'abri, sous un barnum, l'un d'entre eux utilisait un séchoir électrique, peut-être pour isoler des empreintes de pas avant de les mouler avec du plâtre. Lucie écrasa son gobelet et regarda fixement son homme. « Nicolas risque de mal vivre que tu ne l'aies pas prévenu. Il va encore prendre ça pour une mise à l'écart. »«
Son protocole commence en début d'après-midi. Je préfère qu'il le suive de A à Z. C'est important pour lui, comme pour son avenir au sein de la brigade. »
« Envoie-lui au moins un message pour lui demander de passer au bastion après l'hôpital, qu'il soit dans le coup. Si on pouvait éviter les frictions,
je le ferais. »
Sur ces mots, Charcot resta là, les yeux dans le vague. Son esprit s'évadait depuis leur départ du quai des Orfèvres pour le quartier des Batignolles. Lucie se demandait s'il n'était pas en train de céder à un coup de blues consécutif à son arrivée dans les nouveaux locaux et à sa prise de responsabilité au sein de la brigade criminelle. En d'autres mots, on avait déraciné le chêne de ses terres et peut-être le chêne était-il en train de crever.